C'était la première fois que la nuit, il se trouvait si près, enfoncé dans les bas coussins noirs. Partout le silence, un vaisseau français, le Duguay Trouin, rêve immobile sur la lagune. Et puis voici au loin une musique grêle, faible, tremblante, musique de lumignon qui passe sur la barque coloriée. On distingue la triste mélodie « Santa Lucia, Astro d'Argento ». Deux rameurs blancs, tout penchés en avant, élancent une gondole qui, éperdue, énigmatique, s'enfonce dans l'ombre, semble courir au plaisir, frôle celle où Antoine se tait auprès de sa compagne. « Je vous reconduis à votre palais ?» demande Antoine à Donna Marie. Mais elle dit doucement « Pas encore, faisons un tour sur le canal, du côté de la musique, » ajoute-t-elle en désignant la barque au lampion. Et on va vers la musique. Antoine n'a rien à dire. Une jeune dame s'est confiée à lui. Il la ramène à sa demeure. Il se félicite que la voix d'un ténor sur l'eau, voix puissante et comédienne, le dispense de distraire en ce moment sa mince compagne voilée. Cette voix s'enfle et se rengorge comme un vaniteux pigeon et Antoine, froissé dans sa délicatesse, méprise cet amant grossier, ce miroir pour les colombes. Il regarde Donna Marie qui écoute, les yeux embués, ne semblant point disposé à repartir. « Hélas, songe Antoine, l'humidité du soir me gagne, pourtant ne devrais-je point, pour conquérir l'estime de la comtesse, m'établir comme elle, à rêver ?» Il veut lui parler, louer la beauté de la nuit, mais il perçoit d'ardents soupirs, et tandis que l'impudique pâmoison du chanteur italien contagionnait sa noble voisine, quelle stupeur, quelle jouissance n'eut-il pas soudain de l'entendre qui murmurait d'une voix livide « Mon ami, je ne peux plus le supporter. J'aimerais mieux qu'on me tue. » Renversée au dossier noir du bateau éploré, certes, elle s'attendait à recevoir le jeune homme sur son cœur, mais Antoine Arnaud redoutait de calmer trop vite une confiance à peine ouverte et, quoiqu'il lui parlât avec plus de familiarité, il lui parlait sans ardeur. « Nous causerons demain, lui disait-il, comme quelqu'un qui a désormais un inoubliable avantage. D'ici là, je vous écrirai. » Elle ne pouvait répondre. Par soumission, elle acceptait qu'il ne devint pas son amant sur le champ, comme elle l'avait imaginé dans son innocence et son délire. Mais elle restait malade et révélait sa fièvre par des soupirs. « Mon Dieu !» pensait Antoine Arnaud, « si passionnés que nous soyons, comme elles le sont davantage, pour un peu d'ombre et de musique, celle-ci ne peut plus se traîner. » Elle avoue une si secrète émotion comme elle avouerait qu'elle a peur ou qu'elle a froid. Quelle volupté elles se sont faites de leur servitude. Il laissa sur l'escalier de son palais Donna Marie, dont il emportait pour enchanter sa nuit l'expression de son visage douce et pâle, toute la figure défaite. Le lendemain, de bonne heure, il lui écrivit. Il l'appelait chez lui, dans l'appartement de la Fondamenta Bragadine. Il lui disait comment elle entrerait, comment elle sortirait, afin de ne pas être vue. Elle ne répondit pas. « Ce serait pis encore, si hier je l'avais embrassée, » pensait Antoine. « Elle serait presque guérie, tandis qu'en ce moment, elle se débat. » Il lui écrivit chaque jour, et bientôt il reçut une lettre douce, qui demandait de l'amitié. « Je n'en donne et n'en reçois pas, » pensa Antoine. « Ce n'est pas mon métier. » Mais il écrivit qu'il lui proposait de tout son cœur cette amitié, que près d'elle, dans son palais, il était farouche, défiant, qu'il la suppliait de venir. Elle vint. Épouvantée, irrésolue, elle entra chez lui pour se sauver de la rue, pour n'être pas vue, pour fuir. Elle entra dans ses bras ouverts, elle avait eu si peur qu'elle se serrait contre lui et pleurait. Le danger, elle l'avait connu dans la rue, devant la porte, et maintenant elle était sauvée, elle le remerciait. Après la honte d'être dehors, les yeux levés, cherchant un numéro, ce n'est rien de se trouver là, dans la chambre inconnue, près d'un jeune homme. Elle le remercie, elle n'a rien à redouter de lui. Pendant qu'elle parle et se plaint de sa frayeur, il la presse contre lui, elle écarte doucement les mains du jeune homme, mais il la reprend encore, et chaque fois qu'elle le repousse, il revient. Ainsi, elle s'habitue à ses tendres audaces. Lorsqu'elle regarde autour d'elle avec un peu de tristesse les murs nus, il lui dit « Mon ami, ces pièces sont froides et sans grâce, bien différentes de vos demeures, mais il faut que vous les acceptiez par amour de moi. » Et, comme elle est aujourd'hui sans désir, accablée et tendre, elle l'écoute docilement, lui dicter son sort nouveau. Elle ne retrouve pas la volupté solitaire de l'autre soir sur le grand canal, mais elle aime Antoine Arnaud de toute son âme. Et, dans son esprit innocent, elle perçoit que l'amour est plus triste que la passion, qu'il ne peut pas se satisfaire, qu'il est placé dans une région du rêve, où les images et les sanglots se répondent, qu'il est un navire en détresse dans la nuit, dont les signaux, les fusées, les sourdes cassures ne seront point de la côte entendus. Dès ce premier jour, Antoine Arnaud connut tout le cœur de sa maîtresse. Il goûtait moins le plaisir de posséder une âme si délicate et si douce qu'une entière reconnaissance. Empli d'un triste enivrement, il lui tenait la main, ne pouvait se décider à la laisser partir, à ce qu'elle franchît son seuil et retournât chez les autres. Avec la gravité de l'homme qui vient d'épouser une jeune fille, il se sentait ému de responsabilité et de crainte. Il avait peur de tout pour elle, peur qu'elle fût seule dans la rue, que rencontrée, elle se troublât. Il eût voulu ne pas la rendre, l'emmener, se charger de cette vie faible et gracieuse. En songeant au comte Albi, il était jaloux, sans fureur, mais avec un délicat et profond chagrin. Vraiment, Antoine Arnaud aimait Donna Marie, et Donna Marie sans réserve et sans ruse, déjà fidèle, tombait chaque jour sur le cœur de son ami. Ce tendre adultère était devenu son âme, sa tâche et sa conscience. Scrupuleuse, elle demandait à Antoine « Est-ce que j'aurai ce bonheur de pouvoir vous rendre heureux ?» Quelquefois, il la remerciait doucement, et d'autres fois, goûtant la saveur d'être cruel, il répondait « Laissez mon bonheur, Marie. Ni vous ni moi n'y pouvons rien, c'est l'affaire de nos humeurs. Près de vous, que j'adore, je puis rester morne, tandis que la joie délicieuse, quelquefois comme une eau vive, s'est répandu dans tout mon être sans raison, venant, on ne sait d'où, en de courts instants infortunés. » Alors elle pleurait et se rassurait sous les caresses de son ami. L'amour que Donna Marie éprouvait lui avait rendu la volupté du soir brûlant sur le canal. Elle s'émerveillait du plaisir dont elle n'avait point prévu le violent abandon, l'âcre ardeur et la paix. Quoique audacieuse et avide de goûter tout l'amour, elle demeurait timide, de cette timidité qui, plus que ses élans, touchait Antoine. Cette âme, rivée à la sienne, et qui chaque jour, pendant 2 heures, perdait pour lui sa prudence, sa pureté, sa force sociale, l'émouvait. Il eût seulement voulu qu'elle fût plus souvent douloureuse, semblable au jour où, sans désir, Inquiète d'entrevoir les espaces infinis, Donna Marie pleurait sur les mains d'Antoine Arnaud. Chapitre 8. Ah, pensait quelquefois Antoine, comme pourtant la chère et noble créature me diminue. Il faut que je me penche pour parler à cette âme qui, dépouillée de son manteau de soie, de sa froideur et de son petit commandement, est assise plus bas que moi dans le monde. Et je m'enfièvre à ce jeu, m'intéresse, me détourne de mon devoir qui est de toujours conquérir. Certes, Donna Marie, je vous aime, je vous aime, quand, reprise par votre orgueil naturel, vous parlez nettement et dignement et que moi, je me souviens, je vous aime, quand, dans la salle humide et pourpre de votre palais, vous vous empressez auprès du vieux gentilhomme vénitien ou des futiles d'Ogarès, et que, d'un regard attachant votre regard, je fais connaître à votre imagination, à votre doux corps sensuel, cette intolérable répit que chante le poète Swinburne, ivre d'acide volupté. Je vous aime, petit ami, quand, dans l'église Santa Maria dei Miracoli, où vous alliez si chastement faire vos prières, et qui, vous le voyez bien, est un coffret ardent et triste, une close gondole bombée, et toujours ce carnaval or et noir, quand, dans cette église, je vous prends la main, et vous dis, malgré votre peur du sacrilège, ma chère Marie, c'est vous, Sainte Marie des Miracles, car de votre cœur, qui était un petit pain ordinaire, vous avez fait une rose brûlante. Ainsi, Antoine Arnaud, sans se perdre dans l'amour de Marie, y goûtait pourtant de précieuses félicités. Alors, le comte Albi, qui voyageait à Florence, à Sienne, revint à Venise. Antoine en eut une extrême douleur, quelque chose qui touchait à ses nerfs, à son honneur. Il pensait qu'il ne devait pas supporter le retour de son rival. Enlever Donna Marie, il n'y fallait point songer. Et quel embarras lui eût été à la longue, cette sœur chétive, amoureuse et silencieuse, qui buvait les yeux fermés, l'opium du rêve et du plaisir. Qu'elle lui jura de repousser les prières de son mari. Comment aurait-il pu la croire quand il voyait le cruel Italien si exactement et froidement satisfait? Ainsi, lorsque lui, Antoine Arnaud, étant le plus orgueilleux et le plus finement sensuel, avait réussi à fondre dans son cœur une précieuse princesse dorée dont il pouvait penser « Les reines ne sont pas plus douces », l'ennemi venait et la reprenait. Et lui, chanteur dans le jardin, page sous le clair de lune, il n'était même pas entendu de son ami mourant dans la belle chambre du palais entre les bras de l'Italien. Pourtant, Donna Marie ne lui était point si reprise qu'il ne la vit fréquemment, mais il ne la voyait que pour la tourmenter, que pour se briser le cœur avec elle. La passion et les larmes de son ami ne lui suffisaient pas. Il eût voulu d'elle quelque imprudent sacrifice, qu'elle continua à le rejoindre dans les petits salons du café Florian qui, rouges et dorés et ornés de miroirs, ressemblent à de frivoles loges d'opéra. Mais aussitôt il la suppliait de n'en rien faire et finalement la repoussait, comme si elle lui était odieuse et déshonorante. La douce Marie pleurait et goûtait obscurément l'importance d'être un objet de lutte et de débat, de vaniteuse convoitise. Antoine Arnaud affectait de la traiter désormais comme une amie, un camarade. Il lui parlait de littérature, elle s'efforçait de le comprendre, quoiqu'elle le pût difficilement. Une fois, il lui dit « La phrase que je préfère dans les livres, et qui enfin donne en amour le sentiment de l'absolu, est celle qui clôt le rouge et le noir. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie. Mais, 3 jours après Julien, elle mourut, en embrassant ses enfants. » Et Donna Marie, désespérée, demandait doucement à Antoine « Que voulez-vous que je fasse ?» Il répondait « Je ne veux rien. Je veux que vous ne soyez pas. Je veux que vous n'ayez jamais été la femme du comte Albi. » Quand il rencontrait le comte, il demeurait avec lui fort poli. Ensuite, il s'indignait de cela. Puis, il se reprochait ses révoltes. « Quoi » pensait-il. « Je suis Antoine Arnaud. Je marche au son de mon rêve. » Jeune, énergique, ébloui, comme Siegfried, quand il suit le chant de l'oiseau. Lorsque je pense le monde, et toutes les conceptions du monde sont à l'aise dans mon esprit, je vois l'univers par en dessus, par en dessous, et de côté. Tout ce que mon regard touche s'enflamme, l'histoire, les pensées, les sons, les couleurs, les actions des héros entrent dans mon cœur comme des odalisques au sérail. Et je les épouse un instant, je suis immortelle. Non point parce que toute une jeunesse et toute une harmonie naîtront de mon âme et de mes livres, mais parce que je me suis connue et parce que je me suis aimée et que, pénétrée et fécondée par moi, je suis innombrable et parfait. Un signe, un cercle, une planète. J'ai mené plus de deuils et de fêtes dans mon imagination que ne peuvent en regorger les dômes et les palais de la terre. Quand la musique vient à moi, je la reçois en pleurant. Elle est ma fiancée immortelle, l'orgueilleuse, l'intangible, la guerrière et la mouvante. Je suis ce que je suis. Et je souffre parce qu'un homme me reprend une femme qui est la sienne, qui lui appartient, comme la femme du charpentier appartient au charpentier, et n'est point, ainsi que dans ma folie il m'apparaît, un objet précieux capté par un patricien barbare. Mais le souvenir qu'Antoine Arnaud avait de Donna Marie, pâle et frissonnante, les lèvres et les yeux enivrés, pressant contre lui sa douce épaule aiguë, lui rendait impossible ce placide raisonnement. La torride fin de juillet l'énervait encore davantage. Il voulait quitter Venise sans pouvoir s'y décider. Il comptait aussi sur les départs en août de Donna Marie et du comte Albi, qui d'habitude regagnaient les environs de Florence. Une maladie du petit garçon allait les retenir plus d'un mois immobilisés. Antoine aimait la comtesse. Il souffrait de l'aimer et ne s'épargnait aucune chance de douleur. Il l'appelait chez lui, puis en pleurant la renvoyait, un peu soulagée, d'avoir vu sur le visage de sa maîtresse l'angoisse du désir longtemps accumulé, du lourd et désirant désir. D'autrefois, quand elle arrivait si lasse, si couverte de pleurs, si mystique, qu'elle souhaitait s'étendre sur le tapis de son amant pour y mourir, il l'accueillait avec une brutale ardeur. Et comme elle s'effrayait qu'on voulût violenter un corps que baigne des larmes, « Hélas, lui disait-il avec une impitoyable langueur, tes larmes ne touchent pas uniquement mon âme, ma bien-aimée. »« C'est curieux, pensait-il, le chagrin qui l'affine encore la rend plus subtile aussi. Voici qu'elle mène à son gré son mari et moi. Elle m'aime et pourtant ne meurt point. Cette âme s'éveille à la vie. Ah, d'habiles ménagements! Jalouse, elle serait bien plus touchante. Il ne restreint plus sa cruauté. Un jour, il s'emporte contre la jeune femme, jusqu'à lui reprocher sa pâleur, sa tristesse, ses bras maigris. « Vous n'êtes pas gaie, lui dit-il. Ne retrouverai-je donc jamais ce que j'aimais en vous, votre rire, votre ingénuité, votre gentillesse à vivre ?» Et sans colère, penché contre son amant, le corps, les mains découragées, empli d'amour, buvant enfin à la douleur, les yeux plus profonds qu'on aurait pu croire, avec une grande pitié pour lui, pour elle, elle dit doucement « Vous m'avez rendue si vieille, mon enfant chéri. » Il lui reproche aussi la tendresse qu'elle a pour son petit garçon. Un petit garçon qui souffre, mais qui ne va pas mourir, qui déjà joue avec les bibelots de bois qu'on met sur son lit. Cela vaut-il le cœur d'Antoine Arnaud, ou Donna Marie a plus de vie que dans la vie, où vraiment elle fut recréée, douée de son âme, dotée de tous ses plaisirs? Aussi Antoine la tourmente-t-il activement. De son regard, à chaque minute, il la blesse. Quand, pendant les chaudes soirées, ils sont tous ensemble, le comte Albi, quelques amis, et aussi cette rieuse demoiselle Tournay, sur la place Saint-Marc, autour d'une table où s'alignent les petits sorbets roses, oranges, et que, au centre de la place, joue la musique guerrière, Antoine, d'un regard aigu comme des mots audacieux, enveloppe sa maîtresse pâlissante, que la musique enivre, et qui se trouble d'être, sous l'œil de son mari, si visiblement enivrée. Et ce regard dit nettement à la jeune femme, « Oh, Donna Marie, quelle senteur ont donc la musique et le plaisir pour que vous les respiriez en tremblant, en reculant, en avançant, comme fait le cheval d'Arabie quand il sent l'odeur du lion, la profonde odeur du lion rouge. Tu sembles frêle ce soir, ma bien-aimée. Mais ce qui sanglote en toi, c'est la force, ta force, le soupir qui circule en toi et qui meurt dans ta bouche. » Où commence-t-il? Où est-il le plus fort? Les autres et ton mari parlent, boivent, se reposent. Tu fais semblant de les imiter, mais ton imagination, depuis combien de temps râle-t-elle? Depuis combien d'instants es-tu pâmée entre mes bras dans ce coin de la place Saint-Marc, près des lumières et des tasses de café, près de tes amis et de ton mari, sur cette chaise? Où te voici par ton désir défiguré. » Et ce soir-là, Antoine est à bout de souffrance. Il n'en peut plus de regarder, sans pouvoir bouger, la pâle comtesse, si patiente, sous son chapeau penché dans son léger manteau noir qui couvre ses bras et ses genoux, et par moments elle sourit, comme si tout de même tout cela pouvait se supporter. Elle adresse la parole à son mari qui répond doucement et ils s'amusent de quelque chose ensemble. La place Saint-Marc reluit comme un immense salon d'argent. Les murailles brodées habillent la nuit foncée d'un rigide, d'un éclatant, d'un divin point de Venise. Sur la sombre et lointaine lagune, la sirène d'un navire mugit. De toute cette ardeur, de cette beauté, Antoine a le cœur brisé. Il se tourne vers mademoiselle Tournay. Il dit avec impatience « Dans cette Venise qui chante si haut, la sirène que vous venez d'entendre ne détonne point. Semble un cri de passion plus aigu que les autres. Voyez quelle complaisance morbide, quel enjôlement des sens. » Et soudain, mademoiselle Tournay, dans les douces lumières, apparaît brûlante. Avec son front bas et ses yeux dorés et sa bouche d'appétit et de fête, cette autre Française apparaît brûlante. Jamais Antoine ne l'avait regardée, jeune femme ordinaire, négligemment vêtue, qui servait dans le palais à ce que l'on voulait, à désennuyer la comtesse, à éconduire l'importune visite, à obliger le comte et le petit enfant. Mais cette nuit, les cheveux en désordre sur le front, le manteau glissé, elle est une ménade que son ardeur dévait. Elle regarde d'un net regard, et dans ses yeux on voit deux allées qui s'allongent et se perdent et disent « Venez, venez, venez. » Cela est aussi sûr que si c'était en lettres d'or dans ce franc regard. Elle ressemble à une délicate paysanne et aussi, avec son cou clair et gonflé, à une amazone gourmande. Les yeux ont le luisant du scarabée et les cils ont le velu de la bête des champs. Sa sensualité est sur sa bouche. Elle sourit et se délecte. Antoine, agacé, voudrait lui enlever ce qui l'a fait sourire, cette pensée qui l'a fait sourire, comme il lui arracherait un gâteau des lèvres, il voudrait lui dire « cessez ». Il la regarde, animal insignifiant, tant qu'elle n'est point observée, et qui devient lustré, abondant, volontaire, si on a deviné son désir, sa lueur d'insecte, que l'instinct enflamme et signale au mal dans la sombre forêt. C'est cela qu'elle est, cette fille, qui s'habille vite d'une robe rajustée de la comtesse, qui n'a jamais le temps de bien mettre son chapeau parce qu'on crie « Mademoiselle Tournet, venez vite !» mais dont tout le corps pense au plaisir, dont les cheveux et les dents pensent au plaisir, qui doit être la maîtresse du comte et de tous ceux qui l'ont voulu, comme elle sera la maîtresse d'Antoine dans une heure, s'il le souhaite. Au regard d'Antoine, elle a compris qu'il veut d'elle. L'heure qu'elle attendait est venue. Elle est patiente et n'est pas exigeante, mais comme elle goûte l'instant où l'homme qu'elle a longtemps convoité la désire, que de choses elle a faites maintenant. Antoine se les rappelle. C'est elle qui est toujours disposée à tout, qui se réjouit des mauvais hasards, de la pluie, qui surprend, du repas, qui fait défaut à l'auberge, de tout ce qui emploie son énergie et l'expose à être sollicitée comme elle se contente de l'être, chaudement, brièvement, fortement. Un jour, qu'Antoine Arnaud s'était meurtri la main dans une fenêtre, comme elle s'était empressée, avec un linge, une recette, une aimable expérience, mais il avait dit « laissez ». S'il l'eût regardé, il eût perçu ce regard que le sang grise, que la main et la voix et le goût de l'homme grisent. Ah ! Pour se guérir de la douleur qu'il éprouve par la comtesse, pourquoi ne pas suivre un instant cette nymphe brutale ? Il lui dit à voix basse « Venez demain matin à 11 heures au jardin Eden. » Elle a bien compris et, un peu romanesque, touchée dans son cœur de petite fille par cet instant mélodieux et triste, elle pâlit et soupire un peu et semble plus faible, plus fine, plus grave. Chapitre 9. Le lendemain, Antoine Arnaud, là, indolent, se dirige en gondole sur la douce eau verte des canaux vers les beaux bosquets enfermés. Le jour d'été est divin, l'azur est dans l'espace comme une fête, comme un jardin de roses bleues, de rosées bleues, comme 100 000 ailes d'oiseaux d'argent. Antoine Arnaud a laissé sur sa table à peine lues les lettres qui chaque matin arrive chez lui, l'être où sa jeune gloire est caressée par les tendres ferveurs, la déférence timide et ravie des jeunes hommes qui ont 4 et 5 ans de moins que lui et qui l'imitent. Il méprise tout cela, rien ne lui est assez. Ce chaud azur, cette paix lourde, dorée, hachée d'or, cette vibration de l'immobile le contente bien davantage. Solitaire, il est roi du monde, et la jeune femme qu'il va rejoindre ne défait pas sa solitude. Elle est moins une âme qu'une grappe de fleurs odorantes. Quand il arrive, elle est déjà là. Elle sourit de tout son visage rose et pâle qui déplaît chaque fois que d'abord on la revoit, mais ensuite s'emplit et reluit de secrets voluptueux. Ils avancent dans le jardin, il lui tend la main pour l'aider à franchir quelques morceaux de verre mêlés aux brillants cailloux. Elle cède langoureusement. Une politesse lui est une caresse dont elle se prévaut pour défaillir déjà. Brave dans la difficile vie, ici, elle devient molle et fière et se ferait porter par des mains patriciennes. Il marche sous des voûtes de vignes, sous des voûtes de rosiers. L'espace est comme un doux visage fardé de poudre bleue. Quel azur et quel jardin pâmé, des roses et des roses, entassées, oppressées, vives, décolorées, épuisées, se gênant les unes les autres, se prenant leur air et leur vie, s'empoisonnant, s'affamant, ne pouvant dans ce peu de terre subsister toutes, si folles et si nombreuses elles sont là qui règnent et qui meurent. Leur parfum est tel que la couleur et l'arôme se mêlant, l'air semble rose, tout devient rose par ces roses. Et voici les cloches molles des digitales où, adroit et ardent, le lourd bourdon s'enfonce et tremble de volupté. La jeune compagne d'Antoine sourit de la douceur que lui fait éprouver tout ce fécond jardin. Autour d'une légère tonnelle où luisent de si petites roses qu'on les prendrait pour des pâquerettes, tournent de tendres papillons blancs, peu sauvages, abattus par la chaleur et le parfum, et qu'on enfermerait dans la main. Antoine et la jeune femme les regardent jouer, et l'un de ces molles papillons, délicatement, lentement, vole vers la petite rose, et de sa bouche lui baise la bouche, avec tant de netteté, de force et de perfection, que l'on peut voir trembler de désir, de plaisir et d'entente, l'insecte délicieux et la fleur favorisée. Antoine Arnaud se retourne et baise ainsi les lèvres de sa compagne. Mais on n'embrasse point cette jeune femme sans qu'elle meure, sans que son cœur s'arrête et se glace, sans qu'elle devienne la victime ou la tendre comédienne, il ne sait, d'un trop sensible plaisir. Antoine ne s'attendait pas à de si délicates nervosités. Elle pleure et soupire et va vraiment s'évanouir. On pouvait la croire robuste et joueuse, habile et passionnée, mais non qui s'abandonne jusqu'à dénouer son âme, jusqu'à répandre un négligeable trésor qu'on ne lui demandait pas. Quelle revanche prend-elle de sa vie rude et comprimée, de sa claire robe fanée, de son parfum et de sa poudre à bas prix, de sa chaussure lourde sur son pied de nymphe lourde, de sa bague en petites perles sur son doigt rond enflé? Ah, tout cela qui n'est point fin, ni suffisamment convoité. Comme elle s'en venge par sa crise de volupté, comme elle se fait précieuse par ses langueurs, par ses vapeurs. Il faut bien qu'Antoine lui parle avec une anxieuse délicatesse, qu'il la tienne et la touche comme une Esther évanouie, qu'il lui dise « Je vous en supplie, je vous en conjure, à mon Dieu, qu'avez-vous ? Parlez !» On la vit dans le palais de la comtesse jusqu'à minuit passé, sans faiblir, aider le comte à transporter les lourds volumes d'une bibliothèque qu'il classait à nouveau. On la voyait à la promenade, délivrer hâtivement les mains de la comtesse d'une ombrelle, d'un petit paquet. On la voyait servir. Et ici, elle est une Ève, gisante, qui commande et s'impatiente. Et Antoine, en effet, est tout ému d'être l'objet d'une pareille scène, d'une si animale scène. Il s'empresse. Cette fille au regard brutal, il la faut soigner comme une ébée qui se serait laissée choir au lit des dieux. Les cheveux bruns dénoués sous le chapeau chancelant, la robe en gaze de brousse froissée, une écharpe vive qui glisse, c'est un désordre oriental. Antoine trempe un mouchoir dans un peu d'eau jaillie du sable et lui baigne les tempes. Elle dit avec irritation, pas ainsi. Et Antoine, plus doucement, passe ce mouchoir sur ce front. Donna Marie, fûtes-vous jamais si impérieuse? Vous qui, dans vos jours de fatigue, pressiez doucement la main bienfaisante qui caressait vos cheveux. Antoine Arnaud emmène sa compagne exténuée en gondole, puis chez lui, dans cette demeure, il eût souhaité ne pas le faire, dans cette chambre où il a goûté les charmes de sa chère comtesse. Là, elle se guérit, redevient vive et ménagère, refait les bouquets des vases, s'amuse, se rhabille, se déshabille, et, dans les bras d'Antoine, reprend son agonie enivrée, ses pamoisons, ses syncopes voluptueuses. Puis elle s'en va, gentiment, pleurant, riant, puérile, coquette, ayant retrouvé sa santé. Antoine ne sait ce qu'il doit ressentir. Cette fille, vulgaire, subtile et malade, lui laisse pendant une heure encore un fort parfum. Reconnaissant d'avoir suscité de tels troubles, il estime cette adroite forcenée. D'un corps rude et déjà fané à 25 ans, elle fait une âme nuancée qui brûle, se glace, soupire, mord, meurt. Est-il dégoûté? La désire-t-il encore? Il ne sait. Mais il sent qu'en somme, c'est fini. Il n'attend pas de réelle distraction de cette sultane servante. Elle n'est entrée ni dans son âme, ni dans sa vanité. La comtesse, la précieuse, le saura-t-elle? Souffrira-t-elle? C'est cela qu'il faut chercher. Chapitre 10. Antoine Arnaud reçoit le matin Émilie Tournay, tandis que la comtesse vient le soir. Plus à son aise, Mademoiselle Tournay maintenant se repose, flâne, cause, et Antoine voit bien avec soulagement qu'elle ignore les relations que Donna Marie et lui ont ensemble. D'ailleurs, elle n'est point méchante ni perfide, elle semble attachée à Marie. Si elle est la maîtresse du comte, Antoine ne s'obstine pas à le savoir. Il n'ose demander si le comte éprouve de la passion pour sa femme, s'il est exigeant. Ah, comme ce secret lui perce le cœur! Et, blessé de dégoût et d'humilité à la pensée de ce partage, se vengeant de Donna Marie qui, le soir, innocente et confiante, lui dit « Il faut toute la vie me rester fidèle », il ne repousse point les caresses de cette autre jeune femme. Que Donna Marie le sache, qu'elle ne le sache pas, que veut Antoine? Ah, qu'elle ne le sache pas. Pâle petit cœur aristocrate, qui aime autant qu'il peut aimer, sans héroïsme et sans carnage, mais avec une douceur infinie, une si noble soumission, et en même temps une confiance si royale, qu'elle ne le sache pas, qu'elle continue à vivre gracieusement sans que son doux orgueil soit brisé. Et puis Antoine bientôt va partir, va laisser là l'une et l'autre, la rude bergère dont il ne se soucie point, et celle qui lui a appris le triomphe, la perverse ardeur sacrilège, la vanité sensuelle. Il lui dira « Adieu, Donna Marie, restez avec cet homme qui est votre fortune et votre époux, et qui, moi présent, me déshonore. Mais quand je serai partie, vous gémirez, en vous souvenant de moi près de lui et vous étreignant, il étreindra le groupe adultère que vous formerez, uni en pensée à votre amant. Ah, quel plaisant corps à corps pour ce dédaigneux seigneur !» Donna Marie, sur la place Saint-Marc, le soir, après le dîner, tandis qu'elle fait quelques pas au bras du marquis di Savini, entend non loin d'elle Mademoiselle Tournay qui dit en riant à voix basse à Antoine Arnaud « Tais-toi, Antoine !» Mademoiselle Tournay a-t-elle dit à Antoine Arnaud « Tais-toi, Antoine !» Ou bien la comtesse, devenue démente, se figure-t-elle cela? Ou bien est-ce une plaisanterie, une comédie, quelque chose d'organisé qui oblige Mademoiselle Tournay, qui n'en a pas l'intention ni l'envie, de dire en ce moment à Antoine Arnaud qu'elle connaît à peine « Tais-toi, Antoine !» La comtesse ne peut plus avancer, elle perd la tête, elle veut savoir. Qui peut-elle interroger? Elle ne peut rien. Elle s'assoit, le comte Albi et le marquis di Savini font venir des granitis, des cigares. Antoine, Émilie, ne se doute pas que Donna Marie a entendu cette phrase, pour laquelle, d'ailleurs, Antoine a considéré avec mépris l'imprudente et vulgaire Émilie. Hélas, Donna Marie, vous tenez maintenant le bout du fil. Vous allez suivre et vous expliquer. Les regards de votre Émilie qui tantôt provoque et tantôt fuit les yeux de votre amant. Vous allez apercevoir toutes ses ruses, toutes les familiarités qu'elle prend avec lui. Quand il lui parle, elle feint de répondre négligemment et s'il se tait, elle s'agite, s'inquiète, se plaint de la soif, de la fatigue, comme elle rit quand elle le regarde. Riait-elle comme cela autrefois ? Donna Marie ne le croit pas, mais peut-être se trompe-t-elle, peut-être est-elle folle. Est-ce que, quand on a la reine, on veut la servante? Est-ce que cette fille n'est pas une fille grossière et rude, qu'on ne saurait désirer? Si un homme dans un désert, dans la forêt, avait besoin d'elle, il l'aurait et la quitterait après. Voilà ce que pense soudain la comtesse de Mademoiselle de Tournay. Qu'elle aimait. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Crie sa pensée comme une folle. Est-ce une liaison qui commence? Sont-ce les premiers signes? Et lequel des deux veut l'autre? Sans doute Antoine méprise Émilie, repousse ses avances, mais ne le voit-on pas qui semble accoutumé à elle? Il la connaît donc, il s'aperçoit d'elle, et tout à l'heure, ne lui a-t-elle pas dit avec une rude aisance « Tais-toi, Antoine !» Ah, quel dégoût pour Donna Marie! Cette fille va-t-elle séduire son amant? Et son amant, qui est-il son amant, qui n'est rien, qui est de la race au fond de cette Émilie? Qu'ils aillent ensemble, s'ils se plaisent. Donna Marie le dira bien à Antoine, elle lui dira « Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait quelque chose qui faisait que je n'aurais pas pu vivre vraiment avec vous. » Mais hélas, hélas, comme elle l'aime, ne pouvait-il lui épargner cette douleur? Pourquoi la tue-t-il ainsi? Soir du 29 août sur la place Saint-Marc, elle ne vous oubliera jamais. Voyez, elle garde une apparence de vie, de mouvement, de douce grâce, mais elle est pantelante, comme un guerrier à l'infirmerie, soldat qui, sur un lit dur, a le poumon découvert, a la mâchoire cassée. Antoine Arnaud ne voit pas l'angoisse de Donna Marie, tant il est occupé à souffrir d'elle, à la détester parce qu'elle est là, si pâle, entre ce vieux marquis di Savini et son mari. On ne peut rien se dire, on se sépare, on rentre chez soi, et Donna Marie, dans sa chambre, meurt de douleur. son esprit et sa vie, elle les sent froid comme la pierre, anéanti. Mais tous ses nerfs sautent et sanglotent, et la douleur, mille douleurs circulent en elle, courent dans ses veines et sous sa peau comme une foule dans les rues. Cela fait un mouvement intolérable, un va-et-vient dans son corps. Et alors, elle se lève et marche, va et vient dans la chambre. Elle voudrait sortir de sa chambre, de la ville et de la vie, aller on ne sait où, dire à Antoine « Antoine, Antoine, tu m'as tué, je vais où vont les mortes, où sont les mortes ?» Et puis elle songe que là-bas, non loin d'elle, dans une chambre du palais, Émilie Tournet se déshabille, entre dans son lit, se repose. Elle songe qu'Émilie Tournet est une petite bourgeoise, une fille sans fortune qu'elle a aidée, qu'elle a aimée, mais dont elle jugeait et dédaignait toutes les allures, tous les sentiments, toute la forme. Hélas, cette Émilie, Antoine l'a tenue dans ses bras. Donna Marie n'aurait-elle point dû penser à cela, qu'on ne laisse pas une femme auprès d'un homme? Ne sont-ils pas faits pour l'amour? Non, pour l'amour tendre et triste, qui en cet instant déchire son âme, mais pour cet autre amour bref et brûlant. La nature elle-même ne le souhaite-t-elle pas? Ne l'indique-t-elle pas? Les femmes, toutes les femmes, et cette Émilie, n'ont-elles point de tendre corps qui se penche et avance, tendu vers les mains des hommes? Les doigts se touchent, les genoux se touchent, tout un être attire l'autre être, et dans les soirs chauds, les femmes tristes ou légères ne tombent-elles point comme les fruits là sur la prairie? Et là, cette Émilie, tout naturellement, Antoine Arnaud l'a touchée et l'a prise. Elle, Donna Marie, n'avait donc pas veillé? Il a été avec cette fille, comme elle sait qu'il est, elle le voit, elle sait ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Elle sait tout de son plaisir, de sa gratitude, de ses perverses joies. Hélas, que ne sait-elle de lui? Et voici qu'elle se sent être la sœur de cette Émilie, ayant le même corps, le même secret, puisqu'un homme les a goûtées, connues. Les voici deux, toutes pareilles, avec le même souvenir et la même attente. Et Antoine sait leur différence et leur ressemblance. Mais lui, il est le même, il ne change pas. Et toutes les femmes qu'il a conquises se sont ressemblées, sont devenues comme des sœurs entre elles, parce que c'est l'homme qui parle, et la femme qui entend s'imprègne et se modifie. Quelle nuit elle passe, pendant laquelle lentement, sûrement, toute sa vie se défait, se détruit, puisqu'elle a perdu tout le goût de la vie, qu'elle est vraiment dépouillée d'elle-même, que ne meurt-elle à l'aube? Sa confiance, sa beauté, sa noblesse, Antoine les a trahis avec une fille inférieure, cela est. On ne peut pas effacer cela. Mais son orgueil n'est pas si blessé que son rêve. Hélas, elle le sait bien. Elle ne peut pas se détacher de lui. Infidèle ou fidèle, n'est-il point toute sa volupté? Le vertige et l'éclair, l'incomparable bouleversement, le désir et le plaisir, 100 fois plus vifs et plus satisfaisants que ne sont l'une à l'autre la soif et l'eau, et enfin la langueur qui glisse jusqu'à la mort et jusqu'aux larmes immobiles, ne les a-t-elle point connues à cause de lui, à cause de son regard, de sa voix, de ses mains, fidèles ou infidèles? Donna Marie, quand le soir sur l'eau verte et troublée résonneront les tristes chansons de Tosti, et que la tête renversée d'une impossible voix muette, vous adjurerez les cieux et les ténèbres de diminuer votre sensuelle ardeur. Que vous importe si votre ami vous parle et vous enlace, qu'il en ait enlacé d'autres encore? Oui, Donna Marie, songez à vous-même. Aveuglée par les pleurs, ne jetez pas au plaisir le blasphème lyrique, les cris de l'insensé. Va-t'en, maître de l'extase et propriétaire de la joie, va-t'en, majesté, va-t'en, splendeur. Vous sentant plus impur par votre plus exclusif désir, n'exigeant plus rien de l'amitié ni du serment, vous connaîtrez d'âcres joies, audacieuses, pourpres, corrosives. Posez sur votre âme froissée ce beau petit masque d'ivoire, dur et rond, dont les Vénitiennes du siècle de Louis XV recouvraient leur visage sous le tricorne noir. Votre amant ne reconnaîtra pas votre cœur. Ainsi masqué, goûtez la volupté. Laissez glisser sur vous les tendres souffles, les tendres doigts. Votre moins sage beauté effraiera votre amant enivré. Il vous redemandera votre âme. De vos pieds nus à votre cou serré de perles, à vos cheveux chauds et mêlés, vous lui semblerez une énigme audacieuse, et vous posséderez ainsi, jusqu'au désir inassouvi, votre soucieux vainqueur. Donna Marie ne pense point de cette manière. Elle sent seulement qu'elle souffre trop. Et maintenant, debout à sa fenêtre qui regarde le canal dans le matin naissant, abétie, les yeux levés, elle cherche par où, par quels escaliers de l'air, par quelles mystérieuses portes de Venise elle pourrait sortir de la vie. Tout à l'heure, bientôt, elle prendra sa gondole, elle ira chez Antoine Arnaud, et là, elle parlera, et elle criera, jusqu'à ce que quelque chose soit changé dans tout ceci, dans tout ce qu'elle éprouve, dans tout ce qui est. Elle est prête, elle sort, elle arrive chez Antoine, elle ne vient jamais le matin. Mais Émilie, depuis une semaine, vient ainsi de bonne heure. Et Antoine, recevant Donna Marie, c'est épouvante de sentir que l'autre, dans quelques instants, va venir. La pâleur de Donna Marie, son attitude sombre et fermée, le mettent mal à l'aise. Il ne sait que lui dire, mais elle parle. Et voici que, douce, timide, toujours soumise, elle devient forte, et d'une voix nette, desséchée, elle dit tous ses griefs, ce qu'elle a deviné, ce qu'elle entrevoit, ce qu'elle sait. C'est le chant de la fierté, du naturel dédain, de l'antique et claire hauteur. Antoine ne reconnaît pas son amie plaintive et penchée. Comment faire comprendre à cette guerrière qu'il l'aimait et la vénérait, qu'il l'a trompée par douleur, qu'on ne peut pas laisser sans se venger, sans devenir fou, la femme que l'on aime à l'époux qui revient? Elle ne veut rien écouter. Et voici qu'une sonnerie tinte, et que sans doute Émilie maintenant est là, devant la porte, tout près. Pleurant, priant, essayant de saisir les mains de Marie, Antoine la supplie de se taire, de ne point laisser soupçonner sa présence, tandis que lui va tout simplement dire à Émilie Tournay qu'il ne la reçoit pas, qu'il travaille, qu'il ne la verra plus. Mais Donna Marie, brûlante, glacée, haletante, exténuée, sans défense, cédant enfin, tombe dans les bras du jeune homme. Elle baisse la voix et ferme les yeux. « Dis-lui, soupire-t-elle, calme, soulagée, dis-lui que c'est moi que tu préfères. » Au bout de quelques instants, Antoine Arnaud revient près de Donna Marie. Il ne lui dépeint pas le visage d'Émilie, sa colère, ses soupçons. Il hait cette fille et s'indigne et ne pense qu'à la comtesse. Mais elle ne peut point oublier cet adultère. Elle regarde autour d'elle et d'une voix blessée, elle dit « Ce fut ici, ici !» Hélas, elle ne peut pas oublier. Elle voudrait tout savoir de cette redoutable Émilie, ses défauts ou sa beauté. Elle voudrait la voir souffrir et lui dire fortement, tranquillement, Cela ne me fait pas de peine que vous souffriez. Elle ne s'inquiète pas de savoir si Émilie a des soupçons et peut la perdre. Elle veut se venger. Antoine la conjure d'être raisonnable afin de garder son secret. Elle répond « Oui, mais oui. » Cependant, elle songe « Je ne me perdrai pas en disant à cette fille ce que je pense d'elle. Combien je la méprise. » Et, comme elle revient chez elle, elle trouve devant la glace du salon, coquette, riante, Émilie Tournet. Elle ne peut rien dire pendant le déjeuner. Le comte annonce qu'il va passer 3 jours dans la montagne où verdissent les beaux paysages de Giorgione. Ah, quelle délivrance pour Marie! Comme elle va retomber sur le cœur d'Antoine, lui faire répéter jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que les mots usés, pressés, n'aient plus de sens, tournent et tombent, qu'il l'aime, qu'il souffrait, qu'il est jaloux, qu'il meurt. Et comme tout à l'heure dans la maison silencieuse, loin des oreilles de l'époux, elle va doucement torturer cette Émilie détestable. Chapitre 11. Le comte vient de partir, il a dit adieu à Donna Marie, il lui a baisé une main et puis l'autre main. Émilie Tournet est restée au salon près de la comtesse. Elle chante à voix basse en s'occupant des fleurs, elle semble rire. Elle passe plusieurs fois près de Marie et de son pied repousse la longue traîne étalée autour du fauteuil de la comtesse. Elle va sans cesse près du miroir et se regarde et s'arrange. Elle se plaît, elle se flatte elle-même. Donna Marie ne peut plus supporter cela. Elle lui dit 2 ou 3 mots insignifiants, mais de quel ton agressif ? Émilie se retourne surprise. Elle veut s'empresser auprès de Marie et, comme à l'ordinaire, elle lui prend doucement le bras. Mais Marie, ne pouvant dominer son regard qui devient froid et pâle, sa voix sèche qui s'élance, dit en riant de colère à Émilie « Ma chère, vous aimez Antoine Arnaud ?»« Et vous aussi ?» répond celle-ci d'une voix douce, d'une voix indulgente, aimable. Donna Marie dédaigne cette phrase. Elle reprend « Vous l'aimez ? C'est lui qui me l'a dit, qui me l'a raconté. Vous ne savez pas comme il en riait. » Mais Émilie pâlit. « Il ne riait pas, dit-elle, quand il vous trompait. » Avec moi. Avec vous ? Reprend Marie ivre et blanche, et elle ajoute : Je ne sais pas pourquoi je vous parle. Une seule de mes pensées vous pousse et vous fait rouler par terre. Avec vous, ma chère ? On ne trompe pas moi avec vous. Vous, on vous prend. Parce qu'on a pitié de votre désir, de votre besoin, de votre maladie amoureuse. Parce que vous suppliez les hommes et qu'on a pitié de cela parce que... Pourtant, dit Émilie tranquille et féroce, il vous a trompé avec moi. Donna Marie, qui était debout et marchait, s'arrête. Elle regarde son ennemie assise et obstinée. Vous, dit-elle, comme elle est pâle et forte, vous, regardez-vous. Que chercherait-on sur vous ? Le goût des robes que j'ai portées, que je vous ai données. Elles étaient plus belles quand je les ai mises. Non, ma chère, on ne veut pas de votre âme ordinaire, de vos mains lourdes, de vos pieds lourds, de votre basse coquetterie, de votre gros linge brodé. Par amour, je vous le dis, reprend-elle, avec une espèce de calme et de bonté, comme on donne un renseignement. Il vous a prise par pitié. Émilie Tournet ne sait pas répondre. Sans doute, son cœur éclate de haine, mais elle ne peut enfreindre l'habitude de la servile et lâche douceur. Tant de fois dans sa vie, elle s'est excusée, excusée d'être en retard, de s'être mal acquittée de telle commission, de se trouver souffrante au moment où l'on a besoin d'elle. Elle voudrait s'excuser encore. cette nécessité de se rendre aimable pour vivre est entrée dans son sang et apaise ses plus vives colères. Par instinct, par habitude, sous l'avalanche d'injures, elle voudrait prendre Donna Marie, la conduire vers la chaise longue, l'étendre, la reposer, la guérir. Elle la hait et ne peut que caresser à cause de cette habitude des soins. Mais Donna Marie n'est pas assouvie. Chaque fois qu'elle regarde Émilie, elle pense, elle sent, il l'a eu. Oh, prestige de la créature que l'amant a pressée, mystérieux nuage d'or sur l'ordinaire fille. Donna Marie est attirée en même temps que rebutée. Elle voudrait questionner, elle voudrait s'asseoir près d'elle et lui dire « Je vous méprise, c'est fini, maintenant causons, racontez-moi, racontez-moi. » Les yeux dans ses mains, elle écouterait les confidences voluptueuses, l'affreuse confession voluptueuse, et en même temps elle dirait à Émilie « Comment ? Il a embrassé vos mains larges et moites ? Voyez mes mains. Et quel parfum trouvait-il à vos cheveux crépus mêlés ? Et comment avez-vous fait pour cacher vos souliers qui sont si ridicules avec leur aspect chaviré ? Et puis, en somme, tout à l'heure, elle dirait à Antoine « Tu me dégoûtes et elle me dégoûte. Allez-vous-en l'un avec l'autre. » « Je vais voir ce que fait le petit. » reprend finalement Émilie Tournay, gênée, qui cherche à se retirer, à ne plus être là. Elle s'en va, silencieusement, ayant l'intention de ne plus peser, de ne pas irriter. Donna Marie, seule, réfléchit. Cette fille la tient désormais. Certes, pense-t-elle, depuis longtemps Émilie a tout deviné. Elle n'en parlait pas, elle était discrète, tout occupée à vivre commodément, paisiblement. D'ailleurs, elle est naturellement discrète. C'est sa vertu, son obscur honneur, sa rude délicatesse. Mais maintenant, que ne peut-elle dire au comte ? Oui, Donna Marie a de quoi se disculper. Nulle autre preuve que celle de l'amitié, d'une gracieuse et vive entente. Cependant, la méfiance du comte éveillé, voici 1000 obstacles qui surgissent et empêchent l'ancien bonheur et cette Émilie, il la faut écarter. Marie ne veut pas la voir. Mais si Antoine ne supporte plus la jalousie que lui inspire l'époux de Donna Marie, si c'est pour cela qu'il a trompé sa chère maîtresse, après l'avoir beaucoup fait souffrir, hélas, quelle douceur et quelle paix peut-elle espérer encore? Il faut qu'elle s'entretienne avec lui. Elle sait qu'il l'attendra fundamenta bragadin tout le jour. Elle sait aussi qu'il a écrit à Émilie Tournay qu'il serait absent, qu'elle ne revint pas. Elle va le voir, quelle douceur! Et quand elle arrive chez lui, elle le trouve si tendre et si triste, si plein de bonté, qu'elle oublie. Dans l'appartement où l'autre aussi fut choyé, elle ne voit plus qu'elle-même et que lui, leur plaisant passé, leur chaude confiance. Collés l'un contre l'autre, de leurs bras désespérés, ils s'attirent, se retiennent. Ils se taisent et s'enlacent. Donna Marie est vêtue d'une légère robe turque, brodée, dorée, et avec sa douceur tiède, sa frêle, pâle beauté sous le vêtement lamé, elle fait songer à Mademoiselle Haïssé. Petite dame triste et chérie du beau 18e siècle, soupire Antoine. Étions-nous bien faits l'un pour l'autre? Vous, faible, hautaine et frivole, et moi qui souffre trop de vous ? Elle ne répond que par de tendres soupirs qui viennent de la paix de son âme. Tout à l'heure, si inquiète, si bouleversée, elle est tranquille et heureuse de nouveau. Non, elle ne peut quitter son époux, son enfant, sa petite puissance sur Venise et Florence, mais elle est plus habile aussi, elle gardera mieux son amant. Ils restent longtemps ensemble. Donna Marie pense « Il y a pourtant quelque chose de brisé. » Mais elle n'ose pas le dire de peur que, si elle le dit, cela soit. Quand elle était petite, elle s'en souvient, devinant que son père venait de mourir, dans le salon où l'on était réunis, elle se bouchait les oreilles, pour ne point entendre quelqu'un lui dire « Votre père est mort ». Elle sentait que ce serait plus absolu lorsqu'on aurait dit ces mots, et que le silence est bienfaisant, incertain encore, pareil aux limbes indécises. Jusqu'au soir, ils restent ensemble. Une petite sonnette tinte. « Ce n'est rien, dit Antoine à Donna Marie qui sursaute. Ce sont les lettres. »« Voyez, dit Marie, Émilie a dû vous écrire. » En effet, Antoine rapporte une lettre d'Émilie. Il ne voudrait pas l'ouvrir en ce moment, mais Donna Marie inquiète, avec de nouveau son regard de chasseresse qui se fatigue, s'épuise, insiste. Il ouvre cette lettre, elle attend qu'il la lise, mais il la replie. Alors elle la prend, et son visage à la lecture s'irrite. Curieuse lettre, insensible, aiguë et fière, et dont l'adieu se termine par une phrase qui transperce « Exténue Marie ». « Je suis contente, » écrit cette fille à son amant, « je suis contente que tu me quittes, tandis que tu me désires encore. » Antoine a beau se désoler, il goûte au fond de son cœur les colères de ces deux femmes, leurs plaintes, leurs parfums emmêlés. Marie demeure étourdie, déconcertée de cette phrase, et rancunière. Quand elle rentre chez elle, elle ne sait que faire, elle voudrait pousser cette Émilie si elle la voit et marcher dessus, mais on lui dit « Mademoiselle Tournay est souffrante. » Et ce fort pitoyable instinct, cet animal pitié de l'être pour l'être, la solidarité de l'espèce enfin, que la maladie ou la mort éveille, adoucissent déjà Marie. « Ah ! » dit-elle à voix basse, et elle se dirige vers la chambre d'Émilie. Cette Émilie en larmes est dans ses bras. Marie ne sait pas comment cela se fait, mais cette Bacchante qui sanglote et se trouve mal est dans ses bras. Et voilà Marie, toute bouleversée par le poids, le corps, le désordre de cette fille pâle qui menace de mourir, qui, une main sur son cœur, le visage grave et fermé, étouffe, n'a plus de respiration et de toute sa force pend dans les bras de Marie. Et Marie n'est plus qu'une sœur qui veut réchauffer cette vie lamentable. Une sorte de passion, d'ivresse, de sensuelle bonté s'émeuve en elle au contact de cette malade. Elle s'empresse et d'une voix tendre avec des paroles d'amour appelle cette endormie. Elle l'étend et lui baigne le front. Elle la soigne comme Antoine dans le jardin de Rose l'a soignée. Et comme dans ce même jardin, Émilie, seulement assoupie avec une hautaine langueur, se laisse raviver. Et dans la bonté de Marie, dans la chaude animale bonté, passent des éclairs de douleur qu'elle accueille avec une brusque sensualité. Émilie, morte de volupté, dans les bras d'Antoine Arnaud, devait être, comme elle est là, rigide, pâmée, avec le visage soudain grave et royal. Et voici que Marie songe. Si Antoine était là, s'il venait, comme elle guérirait vite. Elle tournerait vers lui ses yeux encore clos et ses bras, et lui, ému devant ce corps qui semble mort, pris de pitié, de douceur, se précipiterait. « Qu'as-tu ? » lui dirait-il. « Me reconnais-tu ? C'est moi !» Hélas, à ses pensées, Donna Marie se rapproche d'Émilie, qui lentement, les yeux fermés, encore glacée, reprend son souffle régulier, et tandis qu'elle la soigne et desserre le corset, sous le flottant peignoir, elle s'intéresse de connaître, quelle trahison, les faibles beautés de la patiente, la taille lasse et la peau fraîche, qu'elle s'enivre de sentir inférieure à sa propre beauté. Quand Émilie se raccroche à elle d'un geste devenu naturel, familier, Marie voudrait reculer, mais amèrement elle pense « Je la goûte, comme l'autre l'a goûtée. » Et avec un mortel plaisir, elle sent contre sa joue les larmes d'Émilie, les larmes salées. Elle tient ses mains brûlantes. Elle respire la vive moiteur, la peau luisante et gelée, l'arôme des cheveux sauvages. Lorsque Émilie reprend ses sens, il semble que les reproches et les colères aient sombré dans cette vive et chaude scène. Elles sont toutes les deux sans défense. Émilie, la première, retrouve une audacieuse tranquillité. Elle remercie et Donna Marie, accablée, se retire maintenant. Comme ces deux journées l'ont changée. Elle n'a plus la force de lutter. Entre Antoine et Émilie, elle meurt de déception, de regret, d'incertitude. Elle voudrait se reposer, s'en aller. Elle ne peut quitter encore le petit enfant souffrant. Veut-elle éloigner Émilie Tournet? Elle n'en a pas la force. Depuis tant d'années, elles vivent ensemble. Elles se sont aidées dans les villes étrangères, dans la vie étrangère. Elles se sont habituées l'une à l'autre. Maintenant, souffrante et couchée à son tour dans son abattement, Donna Marie s'attendrit de voir errer auprès de son lit avec des pas soigneux et légers et son jeune parfum vivant, Émilie Tournet, adroite et dévouée. Une fatigue des nerfs, une grande lassitude amollissent la triste comtesse. Elle tourne ses regards vers son petit enfant et quand le comte revient, elle s'attache à lui avec une lourde et confiante torpeur. Antoine Arnaud, voilà son ennemi véritable. Elle redoute de le voir comme il lui a fait du mal. Chez cette faible Marie, un choc si fort, une si grande dépense d'énergie ont épuisé le sentiment. Elle se plaint de lui à Émilie Tournet, qui ne le défend pas. Elle s'entend de toutes les deux. Et cette intimité, cette faiblesse, attachent l'une à l'autre les deux femmes, font naître chez Marie exténuée l'enfantine et sentimentale confiance et chez Émilie l'actif dévouement. Les voilà liés, ligués. Là d'attendre un appel, toujours retardé auprès de sa maîtresse malade, Antoine, abreuvé de mélancolie, de désenchantement, un soir quitte Venise et, de Florence, il écrit à Donna Marie. Madame, j'erre depuis 3 jours, empli de vous et triste jusqu'à mourir. Mais bientôt, votre image s'effacera de mon cœur. Je vous quitte, petite âme blonde, fragile, hautaine, parce que déjà vous me quittiez. Vous retourniez doucement à votre passé, à votre rigueur. Vous ne saviez plus de moi que mes baisers. Encore les pouviez-vous confondre avec ceux que vous donnait votre époux. J'ai souffert et vous avez souffert. Je ne peux rien vous reprocher. Je n'avais pas pour vous d'amitié. Et notre amour est brisé. Vivez. Votre chère beauté, dans les soirs de Venise, enivrera plus d'un jeune homme. Ne soyez pas malheureuse. Si pendant quelques jours vous souffrez, attendez. Je vous jure que cela passe. Votre folie eût été, lorsque je vous le demandais, de tout quitter et de me suivre. Quelle part de vous ai-je aimée en vous? Je ne sais. Je me suis aimée moi-même, sur votre douce et claire beauté. Hier, je suis restée plusieurs heures dans la villa que vous habitiez en automne sur les collines de San Gervasio. j'ai vu les grandes salles graves où des échos sommeillent. La salle à manger qui donne sur le jardin de citronniers. Votre salon obscur, tout enorgueilli et parfumé des soies, des reliures, des faïences de la vieille Italie. Je sens que là, vous vivez noblement, dans votre sombre robe couleur de l'olivier, entourée de respects et de servilités, négligente et affairée, regardant par distraction au mur le médaillon de terre bleue et blanche de Luca della Robbia, qui représente un petit garçon emmailloté. Le mal que je vous faisais, je cesse de vous le faire en m'en allant. Hélas, mon ami, vous, si légère, vous alliez être submergée par l'ombre et la cendre que mon cœur répand autour de moi. Moi seule, je peux résister à ma tristesse, à mes cruels déplaisirs. Je rechercherai la solitude. Ce matin, au couvent de Saint-Marc, dans les divines cellules où la douce, innocente fresque, placée à gauche, semble vivre et chauffer comme un cœur irisé, j'ai goûté la paix de la mort. Et quand, au-dessus du beau sapin touffu qui fait le milieu du petit jardin, dans l'azur lisse comme une dalle, une cloche a sonné, j'aurais aimé, destitué de toute volonté, mêlé à un troupeau paisible, sous le regard d'un prieur désabusé, me rendre à quelque réfectoire, à quelque atelier, à quelque étude, enfermé désormais dans une sourde, aveugle et maigre discipline. Mais tout à l'heure, dans le cloître plus tendre encore de San Domenico, à mi-chemin de la colline de Fisole, j'ai pu sentir que ni l'isolement ni les clôtures n'empêchent dans ces asiles l'entrée de la tristesse et de l'ardeur. Là, elle tombait du ciel, du morceau de ciel bleu suspendu au-dessus du silencieux jardin muré. Les tristes rosiers cloués aux murs roses, l'infini silence de la petite pelouse, de l'eau plate dans le puits, des fenêtres, des toits, le temps démarqué qui passe sans qu'il soit nécessaire pour ces captifs de connaître la date et les saisons. Tout ce néant, tout cet infini constituait le plus puissant aphrodisiaque, et je me blessais à penser à vous désirer comme jamais je ne vous ai désiré. Dans ce couvent perdu sur la colline, l'éternité ne m'eût pas suffi à vous aimer. Hélas, je crois voir encore tournoyer le soir, rose et bleu. Lorsque, chancelant de mélancolie, je suis sorti de cet enclos, j'ai regardé le moine qui m'ouvrait la porte, un jeune franciscain vêtu de bure et de cuir, qui, lui, vit là, gorgé de repos et de silence, son vigoureux visage brillait comme celui d'un guerrier, d'un chasseur, d'un amant. Il semblait ivre d'appétit, fougueux comme un cheval au soleil, et je l'ai vu disparaître, se replonger, s'ensevelir derrière moi dans l'ombre de son monastère, dans l'odeur de pierre, de tiédeur et d'encens. Madame, ces rêveries qui bouleversent mon âme et ornent encore votre image, recevez-les dans vos petites mains futiles et bonnes. Oubliez-moi. Et plus tard, si vous aimez l'orgueil, qu'il vous soit cher de penser que c'est vous que, dans Venise, Antoine Arnaud a aimé. C'est vous qui fûtes pour mon cœur au-dessus de l'eau verte, dans la fenêtre dorée, Iseux et Desdemona. C'est vous qui chanterez dans mes livres, au regard des jeunes hommes. Petit immortel, qui, sans moi, fûtes demeurée secrète et périssable. Une dernière fois je vous contemple, comme une créature vivante, et maintenant, j'entre avec vous dans le jardin des souvenirs, amie, endormie et divine. Chapitre 12. Antoine ne sut pas l'effet de sa lettre sur Donna Marie. Elle ne répondit pas. Il quitta Florence et, lentement, longeant la mer, descendit vers son pays. La peur de la solitude qu'il pensait aimer lui fit rechercher en cette fin de septembre Martin Lenôtre. Celui-ci habitait sa maison familiale dans la verte campagne. Antoine fut tendrement reçu. Souriant et heureux, innocent et actif, Martin Lenôtre, d'âme immobile, sans évolution de cœur, accueillait son ami. Tous deux se promenaient dans les longues allées d'un jardin feuillu, où, déjà touchés par l'automne, des massifs d'héliotropes de géranium s'éteignaient comme de belles flammes. Le matin, l'air, dépouillé des voiles de la chaleur et du soleil, donnait son parfum vif et nu, une odeur d'eau, de buis et de violette, humide comme un petit nuage, flottait aux deux bords des sentiers. Martin respirait doucement, satisfait de la fraîcheur, comme il l'avait été des journées torrides. Mais une mélancolie profonde, un mal incomparable, déchirait l'âme d'Antoine Arnaud. « Qu'as-tu ? » lui disait Martin. « Tu es triste, sans raison, puisque tu reconnais que te voilà libre, exempt de regrets, tourné vers l'avenir. »« Oui, » répondait Antoine, toujours sombre, « j'éprouve une tristesse sans raison, initiale, finale, profonde. »« Ai-je dit, » reprenait-il, « que j'étais triste sans raison ? » ?»« Non, Martin. » Tout m'est une raison de tristesse. À peine au centre de ma vie, j'en vois déjà le néant et j'en prévois le déclin. Martin, si tu rapproches et entasses les plus belles victoires, l'azur du golfe de Naples, la jeunesse et la musique, tu n'atteindras point encore à ce qu'est mon ambition, ou plutôt mon élan, mon ardeur à vivre. L'univers est pour moi différent de ce qu'il apparaît aux autres hommes. Les plus hautes montagnes me sont des collines que mon esprit franchit aisément. Les villes, des villages, et l'espace, un étroit jardin. Par moments, ayant dépassé toutes les formes et tous les contours, je contemple le royaume immense et blanc de la folie. Martin, que fait-on sur terre? Même si on avait le bonheur, on ne voudrait pas le continuer. Il faut la vie ascendante. Et qui voudrait nous suivre dans cet insatiable enthousiasme? Ainsi, nous perdons nos amis, nos habitudes, nos plaisirs. Je le sens chaque jour. Je m'enfonce davantage dans ce désert royal où les autres ne me sont plus rien. Et que puis-je sur moi-même? En vain essaierai-je d'arrêter en moi un mouvement qui me nuit, me détruit, en même temps qu'il m'augmente? Il pense en moi. Cela déjà nie toute la volonté. Il pense en moi, d'une manière qui m'afflige et qu'il faut que je supporte. Je n'ai pas 30 ans, Martin, et voici que j'ai rompu avec ma vive jeunesse, avec mon enfance, l'illusion, l'espérance et la riante énergie. Je ne suis plus le même. Qu'est-il survenu qui, brusquement, m'a dit « Tu es changé, et le monde, tel qu'il se reflétait dans tes yeux, est changé. » Tu dois être souffrant, interrompit Martin. C'est une âme délicate que l'organisme, les troubles du foie, mais Antoine l'arrêta. « Laisse, Martin. Il faut que l'on soit malheureux ou, si tu veux, subtilement malade, vous n'y pouvez rien, l'esprit a ses raisons que la science ne connaît pas. Je vais te dire mon malaise, je pense. Et, généralement, on ne pense point. Vois les êtres vivre, ils passent doucement, de la force à la sénilité, ils étaient des hommes, ils sont des vieillards, ils n'ont point réfléchi, et ce passage s'est opéré insensiblement. Mais, pour celui qui se regarde et se voit, quel sujet d'impuissante détresse, d'infinie lamentation ! Ah, Martin, un jour viendra, un jour proche déjà, où, lisant comme à mon ordinaire, je sentirai que ma vue est changée. Je ne comprendrai pas d'abord, je me lèverai, je m'approcherai de la fenêtre, de la lumière, mais bientôt, je m'apercevrai que l'obscurité est en moi, que la destruction lentement s'est établie dans l'œil présomptueux. La mort aura commencé son œuvre. N'est-il pas raisonnable qu'un tel sort nous affecte? Je vieillirai. Il me restera l'honneur, les dignités, la connaissance du monde, hélas, tout cela à moi que rien n'intéresse, qui n'est demandé à l'univers que quelques pâmoisons. Si je m'accorde un prix considérable, c'est que je me sens aujourd'hui apte aux glorieuses entreprises. Mais mon orgueil lucide, avec toutes mes chances, décroîtra. Martin, que nous restera-t-il de l'amour? Comme je la médite avec amertume cette anecdote que conte sur soi-même le galant Fontenelle. « Ma maîtresse me quitta, dit-il, et prit un autre amant. Je la pris, je fus furieux, j'allai chez elle et je l'accablai de reproches. Elle m'écouta et me dit en riant, « Fontenelle, lorsque je vous prie, c'était sans contredit le plaisir que je cherchais. J'en trouve plus avec un autre. Est-ce au moindre plaisir que je dois donner la préférence? Soyez juste et répondez-moi. » Fontenelle n'était pas sensible. « Ma foi, répondit-il, vous avez raison. » Aujourd'hui, déjà, cette gracieuse histoire me crève le cœur, tandis qu'à 20 ans, je me souviens d'avoir ri, amusé un jour qu'une petite amie qui m'avait beaucoup aimé et qui cessait de m'aimer, désespérée, essayant d'arrêter la destinée, me serrait contre elle et me criait « Plais-moi encore, plais-moi encore, hélas ! Je me détache de toi. » Martin le nôtre, heureux et bon, écoutait avec plaisir des phrases qui lui étaient une harmonieuse tempête. Antoine s'arrêta de parler et réfléchit, puis il reprit. « Tu n'en peux douter, Martin. Comme toi, j'adore la science oppressée et lumineuse. Le procès de Galilée, si j'y songe, fait saillir dans mon âme ces muscles de l'exaltation qui, dans la mêlée des idées, ferait de moi un guerrier. Je voudrais voir s'élever sur ma ville la statue de la déesse Science. Moi-même, en lettres d'or sur la pierre, je lui dédierais son image. Tes cheveux, lui dirais-je, ont les rayons de l'or, du manganèse et du sodium. Tes yeux mesure la distance des astres, ta gorge a le rythme des mathématiques éternelles. Une de tes mains s'appelle audace et l'autre apaisement de la douleur. Et tes genoux, à chacun de leurs mouvements, avancent le bonheur des hommes. Mais mon ami, dans les soirs tristes, solitaires, quand le léger mécanisme de mon cerveau se détraque et qu'insensible au raisonnement comme un enfant malade à la lecture, je réclame pour mon cœur de naïf bonheur coloré, ah, qu'elle-même alors est impuissante, comme je n'ai rien pour moi, moi qui n'ai pas l'animal habitude de vivre, la douceur chaude, inerte, de la bête au terrier. Antoine Arnaud, que son discours enfiévrait, portait par instant ses mains à ses tempes d'un geste pathétique que Martin admirait. « Tu te plains, lui dit-il avec un rire tendre, tu te plains, et tu sens ainsi, tu peux donner à des livres le son de ta voix, de ta vie. » Alors, Antoine Arnaud amèrement se débattit. « Ne me parle plus, supplia-t-il, de livres, de littérature. Hélas, où en est venu le divin métier? Regarde, combien sont-ils dans l'auguste enceinte? Vois, toutes ces créatures qui chantent, de leurs voix mêlées s'élève une hideuse cacophonie, des livres et des livres. On ne peut, dans ce tapage, distinguer la voix privilégiée. La poésie et le roman coulent comme deux fleuves fades. Les âmes les plus ordinaires usurpent un peu de gloire. Charlemagne, quand on chantait faux dans son temple, se levait en habit d'empereur et de son sceptre dur, il frappait à la tête le malheureux, le misérable. Faut-il qu'Apollon se montre moins fier et tolère sans les châtier tant d'offenses? Martin, je n'ai plus rien à entendre des humains. Il ne me restera de plaisir qu'à mourir, qu'à entrer dans l'ombre où sont mes rois morts, les divins, les fous, le géant Hugo, qui avec des mots faisait le soleil ou la nuit, le géant Nietzsche, qui, pour les pas de son orgueil inouï, inventait des ponts au-dessus des nuées. Antoine Arnaud s'arrêta, demeura silencieux, puis il soupira. Cela aussi est néant. Ô mon ami, l'immense ennui de Pascal, je l'ai bu jusqu'à la lie. Martin réfléchissait doucement à l'état de son ami dont la détresse l'inquiétait. « Ne voudrais-tu pas te marier » suggéra-t-il. « Mais tu aimes la tristesse » put-il ajouter en voyant le geste de refus que fit Antoine. « Peut-être je l'aime » répondit Antoine, « je ne sais. C'est comme si j'entendais tout le temps au fond du bois profond, touffu, le corps, le son du corps, qui est la plus pleine mélancolie qu'on puisse imaginer. L'on écoute, l'on meurt, et l'on ne peut bouger. » Martin, le nôtre, n'essayait point de donner à Antoine son propre bonheur en exemple. Il savait bien que l'harmonie et la paix lui venaient de son caractère, et que pour qu'Antoine les pût goûter pareillement, il eût fallu d'abord se dépouiller de soi-même. « Oui, soupirait Antoine, alourdi de passé. Que de choses mortes, déjà mortes. Morte pour moi, la douce Madame Maille, qui avait des yeux d'eau tendre, et cette tristesse de l'âge qui, près de moi, dut si souvent percer son cœur. Morte dans mon âme, elle et sa maison, et l'odeur de Chypre de ses mains, et nos course du soir dans Paris illuminé, et ma jeunesse et sa jeunesse. Morte aussi, la fille du maître, la petite Corinne, dont un soir j'ai aimé les larmes, comme j'aimais la nuit qui était au-dessus de nos têtes. Et maintenant, ce souvenir est où est cette nuit, effacé, disparu, perdu. Évanouie la jeune femme folle, qui réchauffa mon cœur dans les froids de Flandre. Morte, Émilie Tournet, dont les soupirs, au-dessus des roses d'un jardin de Venise, avaient la violence du printemps, de la musique et du vin. Mourante aussi dans mon âme, de jour en jour, hélas, Donna Marie, qui pendant 6 mois fut ma vie, la lumière et la chaleur de ma vie, que ne puis-je être fidèle? Fier et noble bonheur, comprends-tu, Martin? Je n'ai plus besoin d'elle, c'est fini. Leur douceur, leur beauté ne m'ajouterait rien. Je cesse de les voir dans mon âme, petites ouvrières désormais inutiles, elles rentrent dans l'ombre, et je garde entre mes mains leur doux travail. Il me serait impossible de les aimer encore, de regoûter à ces pêches dont mes baisers ont épuisé l'arôme et l'eau. Ma destinée, ma force, l'avenir, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur. Voilà ce qui, à mon insu, dirige ma vie. Mais je ne sais que faire de la vie. La gloire me lasse sans m'apaiser, et déjà diminue en moi la sainte jalousie, l'ardente orgueil, l'émulation. César pleura quand il vit la statue d'Alexandre. Hélas, reprit-il en riant, quand je songe que les moralistes nous font un grief d'être inconstants, d'être volages, cruels, que ne donnerais-je pas pour aimer encore comme j'aimais ma première maîtresse? Douces années, mais je ne puis, voilà mes torts. L'affreuse lettre que le vicomte de Valmont fit parvenir à la présidente de Tourvel, et où, après chaque aveu de rupture, de lassitude, de dégoût, revient l'impitoyable, ce n'est pas de ma faute, est une juste étude de physiologie. Il est atroce qu'elle soit parvenue à la présidente de Tourvel, qui en mourut. Mais toute la faiblesse involontaire de l'homme y est raisonnablement confessée. Et Martin renonçait à le vouloir guérir. Le temps, pensait-il, peut seul modifier ce caractère. Chapitre 13. Antoine Arnauld revint à Paris. Il reprit sa vie, nombreuse, affairée, le cœur détaché de tout. Mais par moments, son orgueil sursautait. Les nouvelles renommées aiguillonnaient sa force. Il ne faut pas, pensait-il, que les autres passent. Et d'un discours, d'un article, d'un beau livre, il arrêtait les jeunes essors, il demeurait le premier. Parfois encore, il songeait à Donna Marie. Il reconnut un soir sur une enveloppe le timbre d'Italie. C'était un mot d'Émilie Tournet, où cette injurieuse personne offensée s'écriait. « Si je vous eusse aimé comme j'ai aimé d'autres hommes, votre conduite m'eût peut-être contrarié. Mais je n'eus pour vous que de l'indifférence et du mépris. » Et Antoine s'amusa d'évoquer cette Émilie telle qu'il l'avait connue. Émilie, songeait-il en riant, vous ne pensiez point tant de mal de moi quand, renversé au jardin Éden, vous respiriez sur mon cœur passionnément, comme si le vêtement et le col de votre amant eussent été empreints d'un parfum rapide et délicieux dont vous vouliez tout avoir. Quelquefois, Antoine Arnauld pensait. Quel sera maintenant le mystérieux avenir? Ou plutôt, que serai-je? Je ne puis me prévoir, mystérieux moi-même. Il fit plus âprement de la politique. Il parlait à la Chambre, il eut des ennemis ardents, ses discours irritaient, un jeune prince de la droite par jalousie l'attaqua, et sur la vive réponse d'Antoine, fit mine de s'élancer. Minute inoubliable. Toute la gauche, debout autour de l'agresseur, levée comme des montagnes, se retenait à peine de dévorer ce page. Antoine connut l'amour des mâles, ce que pouvait l'éloquence. Il eut avec son rival un duel où il le blessa, mais il voulut 100 fois le tuer. À ces enivrants combats, de mornes jours succédaient. 1 an passa.